journal des Amériques et d'Haïti en compagnie d'Anne Verdaguer. Anne, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, l'audition de Michael Cohen, l'ex-avocat Donald Trump au Congrès, et ses accusations qui ont fuité dans la presse, il devrait qualifier le président américain de raciste et d'escroc. Une audition publique et télévisée qui risque un peu plus de ternir l'image du président américain. On parlera aussi de se camoufler pour Donald Trump, le rejet à la Chambre des représentants de l'urgence nationale qu'il souhaite imposer pour construire son mur à la frontière avec le Mexique. On va également revenir avec notre correspondante en Haïti sur l'arrestation d'un groupe de 8 personnes à Port aux princes lourdement armés et qui n'ont pas été incarcérés, mais mis à bord d'un avion commercial en direction de Miami. Un nouveau camouflé pour la justice haïtienne. On commence donc par la revue de presse des Amériques. Bonjour Romain Le Maresquier.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui donc les États-Unis avec le vote hier de la Chambre des représentants qui a validé une résolution visant à annuler l'urgence nationale décrétée par Donald Trump pour débloquer les fonds nécessaires à la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique.
Et oui, c'est le premier camouflet depuis le début de la nouvelle législature pour le président Trump, estime ce matin le New York Times. Avec 245 votes pour et 182 votes contre, cette résolution est facilement passée à la Chambre des représentants qui est aux mains des démocrates. Mais cette résolution a pu compter sur l'appui de 13 républicains, détaille le Washington Post. Et ce petit détail n'est pas négligeable, explique USA Today, car cette résolution doit désormais être soumise au vote au Sénat, qui est majoritairement républicain. Et selon le quotidien, de plus en plus de républicains, outrés par la manière de faire du président Donald Trump, pourraient voter en faveur de ce texte présenté par les démocrates. Mais comme le précise le New York Times, même si le Sénat donne son aval à cette résolution, Donald Trump devrait y mettre son veto, ce qui serait tout de même un autre camouflet pour le président, estime le Washington Post, puisqu'il s'agirait là du premier veto présidentiel pour forcer une décision de Donald Trump.
On reste encore aux États-Unis, Romain. À Washington, aujourd'hui, on s'attend à un grand déballage, comme on dit dans le langage courant. L'ancien avocat de Donald Trump sera entendu devant une commission parlementaire sur les affaires privées du président américain et ses liens avec la Russie. Michael Cohen a déjà été auditionné pendant plus de 8 heures à huis clos devant le Sénat hier et s'est déclaré impatient de révéler sa version des faits. Michael Cohen, qui se disait autrefois prêt à prendre une balle pour Donald Trump, est devenu l'ennemi numéro un de la Maison Blanche. Il coopère avec la justice. Il a été condamné à 3 ans de prison, notamment pour avoir acheté le silence de 2 femmes qui prétendaient avoir eu une liaison avec le président, et il promet des révélations. La correspondance à Washington d'Anne Corpet.
L'audition de Michael Cohen est annoncée comme un événement à grand spectacle. La chaîne de télévision CNN affiche le décompte des heures, des minutes et des secondes qui restent avant le début de son témoignage. Selon son avocat, Michael Cohen s'apprête à livrer des informations qui, je cite, « font froid dans le dos ». L'ancien fidèle du président devrait décrire les mensonges, le racisme et les tricheries de l'hôte de la Maison Blanche. Certains de ses agissements seraient passibles de poursuites criminelles. Il sera interrogé sur les finances du président, sur ses projets immobiliers à Moscou et évidemment sur les 280 000 dollars qu'il a versés à 2 femmes pour acheter leur silence. Selon la presse américaine, l'ancien avocat du président a même prévu de présenter des documents devant le Congrès. La porte-parole de la Maison-Blanche a tenté de minimiser l'audition. Michael Cohen est un menteur, il est pathétique de voir qu'il aura l'occasion de répandre une nouvelle fois ses mensonges, a déclaré Sarah Sanders. Mais signe de l'inquiétude de Donald Trump, le président a, selon les médias américains, prévu de suivre l'audition à la télévision depuis le Vietnam, où il se trouve pour un sommet avec le dirigeant nord-coréen. Anne Corpet, Washington, RFI.
Romain, s'il y a une forte activité autour du président américain aux États-Unis, Anne Corpet vient de le dire, Donald Trump se trouve, lui, à Hanoï, aujourd'hui au Vietnam, où il a déjà rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.
Oui, deuxième sommet historique avec Kim Jong-un, annonce USA Today, qui détaille le programme de cette première journée. Les deux chefs d'État se sont tout d'abord rencontrés brièvement, il y a moins d'une heure, avant un dîner prévu d'ici peu, qui devrait durer 90 minutes. Une première mise en bouche, avec pour principal sujet les armes nucléaires. Mais ce sont d'autres sujets qui risquent d'éclipser cette rencontre, estime le quotidien. Les affaires internes de Donald Trump et notamment l'audition, la fameuse audition très attendue aujourd'hui de son ancien avocat personnel Michael Cohen, sans parler de la résolution visant à annuler l'urgence nationale décrétée par Donald Trump. Il faudra des résultats très importants et pas de simples promesses pour que ce sommet reste à la une de l'actualité, ce qui semble très improbable, estime ce matin USA Today.
On va s'intéresser à présent au Venezuela, Romain, avec la réunion hier du Conseil de sécurité sécurité des Nations Unies à la demande des États-Unis.
Oui, et le Conseil de sécurité a une nouvelle fois rejeté toute intervention étrangère au Venezuela, comme le détaille le journal Dos Mil Uno, au motif qu'il ne faut pas politiser la situation humanitaire. Les Nations Unies appellent à une solution par le dialogue qui doit permettre l'organisation d'élections à même de mettre un terme à la crise politique. Concernant l'aide humanitaire, son entrée doit respecter les principes clairement établis dans les conventions internationales, selon l'ambassadeur allemand auprès de ce Conseil de sécurité. Une réunion qui confirme ce qui était ressorti de la réunion du groupe de Lima à Bogota ce lundi, mais qui ne permet pas de faire avancer le dossier, estime le journal en ligne Efecto Cucuyo.
Au Nicaragua, qui est également confronté à une crise sociale et politique depuis des mois, le dialogue avec les autorités pourrait reprendre aujourd'hui, Romain.
Oui, des discussions qui vont débuter dans un certain hermétisme et avec un sérieux scepticisme, titre ce matin La Prensa. Ce mercredi, l'Alliance civique pour la justice et la démocratie, qui rassemble de très nombreux secteurs du pays et l'opposition, va donc se réunir avec les autorités pour tout d'abord définir les règles de négociation. L'Alliance civique souhaite que Luis Almagro, le secrétaire général de l'Organisation des États américains, soit nommé médiateur et qu'une délégation de l'ONU soit présente à la table de discussion. Les autorités ont clairement fait savoir qu'elles ne souhaitaient pas la présence de la conférence épiscopale qui avait fait office de médiateur dans les précédentes tentatives de dialogue. On ne sait pas si Daniel Ortega, le président nicaraguayen, assistera au dialogue, précise le quotidien. Enfin, autre information, les autorités auraient, semble-t-il, donné leur accord pour que 100 prisonniers politiques puissent purger leur peine chez eux le temps que les discussions se tiennent, ce qui était l'une des conditions posées par l'Alliance civique pour relancer le dialogue. Des discussions qui vont pouvoir reprendre grâce aux pressions de la communauté internationale et des sanctions économiques, estime l'un des négociateurs, Max Reyes.
Il est clair que ce dialogue est une conséquence de l'alignement de la communauté internationale. Daniel Ortega est presque totalement isolé au niveau diplomatique et il y a une pression interne constante. Le thème des sanctions économiques et la détérioration de l'économie l'a obligé à revoir sa position. Son but est d'obtenir un accord sur le plan économique. Mais le secteur entrepreneurial a été clair. Il ne peut y avoir d'accord dans le domaine économique sans accord politique. Parce que ce qu'il y a en toile de fond dans cette crise économique, c'est la question politique, la démocratisation du Nicaragua. C'est pour cette raison qu'ils ont dit qu'il fallait rouvrir un canal de discussion et qu'ils ont trouvé un accord avec le gouvernement pour relancer ce processus de négociation. Il doit permettre d'obtenir des accords substantiels à même de mettre un terme à la crise politique à laquelle fait face actuellement le Nicaragua.
Max Jerez, membre de l'Alliance universitaire et négociateur dans ces discussions au Nicaragua, répondait aux questions de Mélissa Barra.
Merci Romain Lemareski pour cette revue de presse des Amériques.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
En Haïti, une arrestation qui fait grand bruit, celle d'un groupe de 8 hommes lourdement armés, interpellés près de la Banque Centrale en plein centre-ville de Port-au-Prince le dimanche 17 février dernier. Ils étaient en possession, entre autres, de 6 fusils d'assaut, autant de pistolets, des centaines de cartouches, des gilets pare-balles, des drones et des téléphones satellitaires. Aujourd'hui, les 7 étrangers, 5 citoyens américains et 2 résidents américains ont quitté le pays sans passer par la case justice. L'homme haïtien qui les accompagnait a lui aussi été libéré. Au micro de notre correspondante Marie Rose du Sénat, du Réseau National de Défense des Droits Humains, revient sur ce feuilleton qui est un nouveau camouflet donné à la justice haïtienne par le pouvoir exécutif haïtien et aussi par les États-Unis.
C'est vrai que ce sont des gens qui ont été arrêtés avec en leur possession des armes lourdes. Avec ces armes, il faut aussi qu'on comprenne. La population a besoin de comprendre ce que les gens faisaient ou comptaient faire avec ces armes-là. Et on s'est arrangé pour qu'il y ait vraiment l'omerta concernant ce dossier.
Mercredi après-midi, ils sont emmenés non pas au parquet où les attendait le juge, le commissaire du gouvernement, mais à l'aéroport de Port-au-Prince. Ils sont partis sur un vol commercial vers Miami, encadré par du personnel de l'ambassade américaine.
Oui, oui, nous avons aussi été choqués d'apprendre cela, mais bien avant, au moment de leur arrestation, ils ont refusé catégoriquement de s'identifier et ils n'ont eu qu'à affirmer aux autorités policières que leur chef allait recevoir un appel. Et comme de fait, quelques minutes après, les autorités policières ont commencé à recevoir des appels du Palais national et aussi d'autres, je dirais, composantes du pouvoir exécutif. Maintenant, écoutez, ils sont partis, comme vous venez de le dire, libres. Ils sont retournés chez eux sur un vol commercial et ça aussi, ça constitue pour nous une gifle. Le ministre de la Justice, il est allé trop loin. Ça prouve que l'exécutif lui-même, il n'est pas prêt de laisser le pouvoir judiciaire faire son travail comme il le doit.
parce que donc le ministre de la Justice a signé un ordre de transfert de ces personnes en se substituant au pouvoir judiciaire.
Il se substitue au pouvoir judiciaire, mais il va encore plus loin parce que le ministre, lui, il adresse son ordre d'abord au directeur central de la police judiciaire, alors qu'en fait, son principal vis-à-vis, c'est le directeur général de la PNH. Il n'a pas normalement le droit d'aller directement trouver le DCPJ parce que ce faisant, il donne l'impression que même le directeur général de la PNH n'avait pas été mis au courant de ce qui se tramait. Si dans un premier temps, la police nationale d'Haïti s'est très bien comportée parce qu'elle n'a pas voulu céder aux pressions, mais par la suite, écoutez, la gifle est d'autant plus retentissante que c'est le directeur central de la police judiciaire qui accepte de donner suite à un ordre manifestement illégal.
Et donc aujourd'hui, ces 7 ressortissants étrangers ont quitté le pays et le ressortissant haïtien a aussi été libéré.
Oui, il a été libéré. Et nous-mêmes, au niveau du RNDDH, écoutez, nous considérons que c'est carrément justice parce que lui, il a toujours été présenté comme étant le chauffeur et le traducteur du groupe et que si les principales personnes concernées sont relâchées avec autant de retentissement, écoutez, et n'allons pas dire qu'on allait garder l'haïtien lui-même comme un bouc émissaire, mais nous considérons qu'effectivement, effectivement, c'est dommage parce que ça aura été encore une fois un autre dossier sur lequel les Haïtiens n'auront rien compris.
D'un côté, les pays amis, dont les États-Unis, demandent à Haïti de travailler à l'instauration de l'état de droit, mais dans ce dossier, il y a une violation totale du droit haïtien et de la justice haïtienne.
Bien sûr, parce que, écoutez, des personnes qui sont trouvées sur le territoire national avec des armes lourdes, des matériels sophistiqués, ont pu partir librement et selon ce qu'a dit un de ces ressortissants, en remerciant donc le département d'État et aussi l'ambassade américaine, on peut comprendre que ce sont ces autorités-là qui sont intervenues auprès des autorités haïtiennes pour demander la relaxation de ces personnes. On peut comprendre que dès qu'il y a des intérêts en jeu, il y a des artifices aussi qui sont utilisés pour ne pas permettre que le droit puisse s'appliquer vraiment.
Marie-Rosie Duquesne du Réseau National de Défense des Droits Humains en Haïti, au micro d'Amélie Baron. L'ambassadeur de l'Union européenne aux États-Unis, David O'Sullivan, prend sa retraite ce 28 février. L'occasion de revenir avec lui sur les difficultés dans les relations entre les deux puissances depuis l'accession de Donald Trump au pouvoir. Illustration de cette dégradation des relations entre les deux alliés. L'ambassade de l'Union européenne à Washington a été rétrogradée dans l'ordre protocolaire. Mais l'ambassadeur n'a pas souhaité s'exprimer à ce sujet. Il préfère quitter son poste sur une note d'espoir pour l'avenir des relations transatlantiques. David O'Sullivan, au micro de notre correspondante à Washington, Anne Corpé.
Ça fait 4 ans que je suis ici et je pars toujours avec la même confiance que les relations entre l'Union européenne et les États-Unis sont fondées sur les 3 piliers de la coopération économique et commerciale, sur l'alliance sécuritaire et sur des valeurs que nous partageons ensemble. C'est vrai que cette administration a voulu mettre en cause certains éléments de cette relation. C'est leur droit. Nous avons des réponses à certaines de ces questions. Mais de toute façon, cette relation transatlantique, pour moi, reste absolument cruciale, à la fois pour les Américains que pour nous.
Mais il y a eu des désaccords sur beaucoup de sujets, le climat, le commerce, la politique étrangère. Sur quel domaine l'union entre l'Europe et les États-Unis est-elle efficace aujourd'hui ?
C'est vrai qu'il y a des divergences sur même des dossiers très importants. Ça arrive dans la vie. C'est pas la première fois que nous avons des divergences avec une administration américaine. Sur le commerce, je pense qu'après l'accord trouvé entre le président Trump et le président Juncker, nous sommes partis sur un dialogue productif et nous espérons que cela va apaiser un petit peu les difficultés. L'accord trouvé entre le président Juncker et le président Trump est très clair. Tant que les discussions continuent, les deux côtés s'abstiennent d'introduire des nouveaux tarifs et nous sommes convaincus que les discussions en cours font du progrès. Et donc, dans ce contexte-là, nous ne nous attendons pas à des nouveaux tarifs pour l'instant. Sur d'autres sujets tels que le climat, nous continuons à investir dans notre engagement, mais pour l'instant, l'administration ne change pas d'opinion. Mais je répète, si vous regardez sur la langue, on a souvent des divergences et des conflits avec des administrations américaines et nous avons toujours fini par trouver des solutions et ce dont je suis vraiment profondément convaincu, c'est que cette relation est suffisamment robuste et profonde pour résister même aux différences et aux divergences d'un moment à l'autre.
Emmanuel Macron, Angela Merkel, Theresa May, chaque chef d'État européen a tenté d'établir une relation avec Donald Trump. Personne ne semble avoir vraiment réussi. Quelle est la bonne manière pour s'adresser au président américain ?
Je ne peux pas parler pour les chefs d'État et de gouvernement des États membres. Je peux vous dire que quand M. Juncker, le président de la Commission, a rencontré le président Trump à la Maison Blanche, le résultat a été un accord et une certaine atténuation du conflit. Donc, visiblement, le président Juncker a trouvé un moyen de s'entendre avec le président Trump.
Et le président Trump a compris cette notion d'Union européenne. Il a encouragé le Brexit. Il a l'air d'avoir du mal avec ce concept d'Union européenne.
Je pense qu'il a très bien compris qu'en matière commerciale, c'est l'Union européenne en tant que telle qui négocie et la Commission qui mène ces négociations au nom des États membres. Donc, cela est très bien compris maintenant à Washington.
L'ambassadeur de l'Union européenne aux États-Unis, David O'Sullivan, au micro de notre correspondante à Washington, Anne Corpet. Le journal La Première Caraïbe, présenté par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
À la une aujourd'hui en Martinique, 7 lignes de bus sont toujours à l'arrêt dans et aux alentours de Fort-de-France.
Oui, le trafic est toujours partiel sur les lignes du réseau Mosaïque suite à un mouvement de grève dans une société co-traitante du réseau. Conséquence, pas de transport en commun dans certains quartiers et dans certaines communes. La municipalité de Chalcher menace d'ailleurs de saisir la justice. Et cela fait plusieurs semaines que cela dure. Dans le centre-ville de Fort-de-France, alors que les festivités carnavalesques arrivent, les commerçants font grise mine. Écoutez ces deux commerçants rencontrés par Christine Cupit.
Ça nous enlève énormément de clients, donc une grosse perte de chiffre d'affaires. Nous sommes à moins 30%, ce qui est énorme. Les petits commerçants souffrent énormément, quoi. Il y a des gens qui me disent, ils font rien de la journée, quoi. Un chiffre d'affaires zéro.
On voudrait bien relancer l'activité, mais moi je dis qu'il est un petit peu tard par rapport à la perturbation de la grève des bus. Et ce qu'on a perdu dans les deux semaines, on va jamais le rattraper, le carnaval est déjà là. Bon, ce que l'on craint un petit peu, c'est que cette affaire de grève de bus ne puisse pas redémarrer en plein boom. Mais la ville de Fort-de-France, les gens commencent à se présenter timidement. Ce sera vraiment de grosses pertes quand même, parce que lorsque vous atteignez lundi gras, etc., dimanche gras, c'est que c'est la fin du carnaval, là, les gens n'achètent plus. Donc, le plus gros est déjà parti, hein, vous savez, on ne pourra jamais compenser à ça. Nous aimons nous amuser, surtout le carnaval, Noël, etc. Et je constate que pour cette affaire de grève de bus, on nous tape toujours en plein fouet là où il ne faut pas.
Air France revient à Saint-Martin. La compagnie avait décidé de suspendre ses vols après le cyclone Irma. C'est sa low-cost June qui assurait partiellement l'activité 3 fois par semaine. Retour progressif donc à compter des grandes vacances, puis plus régulier à partir du 6 septembre. Franck Aristide.
À partir des grandes vacances, Air France commencera progressivement à marquer son retour dans l'île du Nord. Une 4e liaison sera en effet rajoutée à celle existante. Elle s'effectuera en Airbus A330 le mercredi à compter du 3 juillet. Première étape donc vers un retour à une situation normale, celle d'avant le 6 septembre 2017. Mais à partir cette fois du 27 octobre, début de la haute saison touristique, tous les jours. June reliera Saint-Martin à Paris 2 ans après la tragédie saint-martinoise. La compagnie nationale avait en effet suspendu sa ligne vers Saint-Martin dévastée par l'ouragan Irma durant l'hiver 2017-2018. La desserte avait alors été transférée à sa low-cost June, désormais vouée à disparaître. Sur le long terme, Air France reprendra donc la main en direct et devrait également changer d'appareil puisque ces Airbus A340 seront mis à la retraite au fur et à mesure de la livraison de ces Dreamliner, les Boeing 787.
Bon après-midi Anne, à demain.
Merci beaucoup Benoît Ferrand. Très bon après-midi à vous aussi. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques. On se retrouve demain 14h10, heure de Paris.
RFI parle au monde en français, mais aussi en 14 autres langues. Écoutez RFI en persan.
اخبار، گزارش‌ها، گفتگوها و برنامه‌های گوناگون RFI به زبان فارسی را هر کجا که هستید و هر هنگام که خواستید در سایت این رادیو بخوانید و بشنوید.
Écoutez RFI en persan sur Hotbird et sur fa.rfi.fr.